Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Caroline Bonin, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Mèche. Suite de notre série consacrée au retour des murs, force est de constater que dans notre village globalisé, dans nos sociétés dites ouvertes, où les frontières semblaient s'abattre ou devoir s'abattre les unes après les autres dans le sillage du mur de Berlin, les temps présents se caractérisent aussi par tous les murs qui s'y sont dressés. Aujourd'hui, ce sont les murs, cicatrices d'affrontements intercommunautaires, de luttes intestines dont nous questionnons la construction et surtout la permanence. Les murs permettent-ils de garantir la paix? Pourquoi restent-ils une fois la guerre finie? Et quelle réconciliation, quel dialogue possible s'il sépare toujours les communautés? Direction Belfast et l'Irlande du Nord avec la ville mur, bien sûr.
Je n'aime pas ces murs et je ne veux pas que mes enfants grandissent en regardant constamment ces murs qui nous séparent de nos voisins protestants. Mais je pense qu'il est bien trop tôt pour s'en débarrasser. Il y a toujours beaucoup de fanatisme et d'agressivité des deux côtés. Les gens n'ont pas encore réalisé qu'il est temps de faire la paix, d'arrêter ces querelles absurdes et stériles.
Les gens qui vivent des deux côtés du mur ont besoin de logements sociaux, d'emplois, d'une bonne éducation. Malheureusement, nous vivons dans une société qui est divisée par des murs. Mais d'une certaine manière, nous sommes tous égaux dans la pauvreté.
Ils ont commencé à construire des barrières au début des affrontements en 1969. Parce que sans elles, il y aurait de nouveau des heurts. C'est une situation fragile. On marche sur des œufs.
Et oui, en 1969, suite aux émeutes qui éclatèrent à Belfast au cœur de l'été, l'armée britannique disposait un peu partout des barrières afin de séparer les nationalistes catholiques et les unionistes protestants. Alors si au départ, il s'agissait de simples barbelés, ils sont progressivement devenus des murs de béton et leur nombre s'est considérablement accru. Il y avait une quinzaine de peace lines dans les années 90, une quarantaine dans les années 2000, et presque une centaine aujourd'hui. Comment comprendre qu'ils se soient ainsi multipliés et comment envisager de renouer le dialogue et de construire une paix durable dans un environnement où l'espace lui-même est cloisonné? La question est d'autant plus prégnante dans un contexte où le Brexit fait trembler les plus optimistes. En effet, le territoire insulaire pourrait se retrouver coupé en deux, la limite entre la République d'Irlande au sud et l'Irlande du Nord constituant alors de facto une nouvelle frontière extérieure de l'Union européenne. Alors comment le Brexit ravive-t-il les tensions, les divisions entre unionistes protestants et nationalistes catholiques? On essaiera de le comprendre. Nous évoquerons également le cas de Chypre, une île méditerranéenne coupée depuis 1974 par une ligne verte tracée par les Nations Unies suite à l'invasion de l'armée turque de la partie nord du territoire, réagissant à la tentative par la Grèce de forcer son annexion. Depuis, la ligne est toujours là et la capitale, Nicosie, est partagée par la République turque du Nord et Chypre et la République de Chypre. Depuis quelques semaines, les espoirs renaissent de voir l'île réunifiée, mais les obstacles restent nombreux. On verra ça tout à l'heure avec Étienne Copeau. Et puis on évoquera également le mur de sable situé en plein désert et qui scarifie le Sahara occidental sur près de 3000 km. On essaiera de comprendre les enjeux et les tensions qui perdurent autour de cette ligne. Ça sera avec Sébastien Boulet. Mais pour l'heure, place donc à l'Irlande avec Florine Balif. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Florine Balif, vous êtes urbaniste et maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris. Aujourd'hui, on va commencer avec l'actualité. L'Irlande, on le rappelle, est séparée en deux. La République d'Irlande au sud et puis l'Irlande du Nord qui appartient, rappelons-le, au Royaume-Uni. Le territoire va être directement affecté par le Brexit, puisqu'on a 4,6 millions d'Irlandais du Sud qui resteront dans l'Union européenne, contrairement aux 1,8 million du Nord, de Nord-Irlandais qui, eux, sont des citoyens britanniques et qui, donc, vont sortir. Alors même que, rappelons-le, ils avaient voté, eux, pour le Remain à 56% lors du référendum du 23 juin dernier. Depuis l'accord de Belfast, qu'on appelle aussi les accords du Vendredi Saint, qui avait mis un terme au conflit entre les nationalistes catholiques militant pour le rattachement à la République irlandaise et les unionistes protestants désireux, eux, de rester dans le Royaume-Uni. Plus rien ne matérialise la frontière entre le Nord et le Sud. Les individus, les marchandises peuvent sans problème franchir la frontière sans aucune difficulté. Il n'y a pas de checkpoints, il n'y a pas de mirador. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le Brexit sera effectif? On aura près de 500 km comme ça de frontières extérieures qu'il s'agira de rétablir, d'établir?
Alors pour l'instant, rien n'est sûr. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit la frontière avec les annonces pour les bureaux de change ou les vitesses qui sont indiquées en miles ou en kilomètres. Mais c'est à peu près la seule différence qu'on peut voir aujourd'hui.
C'est quelque chose qui inquiète ?
Oui, je crois que les gens sont inquiets, notamment en raison de la situation économique. Et puis, il y a aussi des enjeux symboliques. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop, puisqu'une des questions est de savoir dans quelle mesure la Grande-Bretagne va rester et le Royaume-Uni va rester dans le marché commun ou pas, ce qui aura un impact sur les marchandises très fort. Les inquiétudes sont liées aussi à l'économie, puisque le Sud est actuellement plus prospère que le Nord. Et il y a beaucoup de gens qui vont travailler au Sud. Et puis, autre chose au niveau symbolique, c'est que si on ferme la frontière sur l'île, les nationalistes irlandais vont se sentir lésés dans leur sentiment d'identité irlandaise. Mais si on la laisse ouverte, il faudra, d'une manière ou d'une autre, fermer la frontière entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et là, ce seront les unionistes qui vont se sentir finalement lésés de ne plus pouvoir aller chez eux. Et les échanges, que ce soit vers l'Irlande du Sud...
Et donc, quelle que soit la solution retenue, elle sera forcément une mauvaise solution, soit pour une partie, soit pour l'autre.
Exactement.
Beaucoup craignent que la sortie de l'Union européenne fragilise le processus de paix. Est-ce que c'est votre cas ? Et finalement, pourquoi, inversons la question, pourquoi l'appartenance à l'Union européenne serait-elle un facteur de paix ?
Alors, en partie, pour une question identitaire et en partie pour une question économique. En premier lieu, l'Europe donnait un horizon de représentation identitaire un peu plus large et cette fragmentation entre nationalistes et unionistes commençait un petit peu à évoluer. Une deuxième chose, c'est au niveau économique. Depuis 1995, l'Union européenne a distribué énormément de subventions, d'abord des fonds structurels, puis des fonds régionaux, qui contribuent à faire du développement social, du développement intercommunautaire, qui est en lui-même un facteur de stabilisation sociale et économique.
Mais justement, un exemple de cette construction, de cet élément qui serait que l'Union européenne participerait au rapprochement, de certaine manière, entre les deux communautés.
Lui, il vient de la communauté catholique et lui, il est protestant. Nous racontons aux enfants des histoires qui leur montrent qu'ils peuvent être amis très jeunes et s'aider mutuellement. Voilà l'idée qu'il y a derrière ces marionnettes. Une idée qui est soutenue par des subventions de l'Union européenne pour faire avancer le processus de paix. Autrefois, il aurait été impossible d'avoir une crèche multiconfessionnelle dans ce quartier à majorité protestante.
Avec les 12 millions d'euros dont nous avons disposé ces 5 dernières années, nous avons pu financer plus d'une centaine de projets différents. Des dizaines de milliers de personnes ont pu en bénéficier. Grâce à cet argent, nous avons jeté les bases d'une véritable transformation de la ville.
Voilà, extrait d'un documentaire, Le Brexit de la discorde en Irlande du Nord, qui avait été diffusé l'année dernière sur Arte. On entendait Betty Carlyle, directrice à Belfast d'un centre social qui bénéficie justement de subventions européennes. Et puis Isaac May, le coordinateur des projets à la mairie de Belfast, des projets donc de réconciliation entre les communautés. On voit bien que de façon générale, cette adhésion à l'Union européenne, elle a permis d'échapper un petit peu à ces questions d'identité, à ces questions de religion. Tout le monde se retrouvait plus ou moins autour d'une identité européenne, même si on le dit souvent, elle reste assez largement floue et elle diffère évidemment selon où vous vous situez. Mais quand même, on voyait que le fait d'appartenir à l'Union européenne, ça permet de se retrouver. Et donc la sortir de l'UE, ça risque de raviver toutes ces tensions identitaires que le projet européen permettait de dépasser. Alors il y a la question du Brexit et puis il y a aussi la question de la crise politique et institutionnelle en Irlande du Nord. Je rappelle, 9 janvier dernier, le vice-premier ministre d'Irlande du Nord, Martin McGuinness, a démissionné. L'ancien chef de l'armée républicaine irlandaise dira, devenu aujourd'hui une figure emblématique du dialogue, va provoquer, là on le voit déjà, une crise sans précédent, puisque les nationalistes du Sinn Féin sont partis, ont refusé de lui nommer un successeur. Or, en vertu des accords de paix de 1998 qui régissent le partage du pouvoir entre les nationalistes et les unionistes, la démission d'une des parties provoque mécaniquement celle de l'autre. Il faut expliquer un peu aux auditeurs. Mais donc, ce qui fait que la première ministre Arlene Foster, donc leader, elle, du parti unioniste démocrate, elle doit démissionner. On a de nouvelles élections qui vont être organisées. Sauf que rien ne prouve que le DUP, le parti unioniste démocrate, donc pro-britannique, et le Sinn Féin, donc le parti nationaliste irlandais, parviennent à gouverner ensemble. Quel regard vous portez sur cette crise, Florine Balif? Quelle est l'ampleur de la crise politique et institutionnelle actuelle et quelles conséquences vous y voyez sur les fractures entre nationalistes et unionistes?
Alors, il faut rappeler que le gouvernement entre les unionistes et les républicains, les nationalistes, n'a pas toujours été facile. Il y a eu une absence d'assemblée et de gouvernement entre 2002 et 2007, une crise qui avait duré 5 ans.
Donc ils sont habitués aux crises institutionnelles.
Oui, notamment parce qu'il y avait un désaccord sur le désarmement des milices paramilitaires, les nationalistes qui disaient pas de gouvernement, pas d'armes, et les unionistes disaient pas d'armes, pas de gouvernement. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est un petit peu différente parce que il y a quand même une habitude de gouverner ensemble malgré les crises et les tensions. Il y a une attente très forte de la population, je crois. Et puis, la seule incertitude, c'est qu'entre 2002 et 2007, les institutions avaient été reprises par le gouvernement britannique. Par ce processus d'administration directe. Là, avec la sortie de l'UE et l'instabilité que ça crée, la crise risque d'être un tout petit peu plus difficile. Mais voilà, je dirais que là, il y a une sorte d'habitude et de fatalisme un peu.
Je disais, donc, Martin McGuinness, il était, lui, opposé au Brexit, donc oui. Le nationaliste. Alors que Foster, l'actuel Premier ministre, qui va démissionner, elle y était favorable. Est-ce que ça résume bien la situation avec finalement d'un côté des nationalistes catholiques qui étaient opposés et qui sont opposés au Brexit versus des unionistes protestants qui seraient favorables? Est-ce que c'est une grille de lecture qui fonctionne ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça?
Alors ça fonctionne à gros traits, sachant que les unionistes eux-mêmes sont divisés. Alors les nationalistes, évidemment, ont depuis très longtemps vu un intérêt très fort à l'élargissement de la question à l'Europe, puisque c'était aussi un moyen d'associer le sud de l'Irlande et donc de faire advenir cette Irlande, pas forcément unie, mais en tout cas qui avait une existence sinon politique, au moins réelle. Les unionistes, en réalité, sont divisés, parce que notamment la classe moyenne voit bien les avantages de l'Europe. Et donc, ils sont divisés entre le DUP, qui sont les plus radicaux, les plus conservateurs, les plus nationalistes, même si cette notion n'a peu de sens en Irlande du Nord, les plus identitaires. Mais le parti unioniste de l'Ulster, le UUP, est favorable au Remain.
Revenons sur Belfast et donc sur les murs. 1969, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, on a des émeutes qui éclatent en Irlande du Nord, notamment autour des quartiers ouvriers des Falls et de Shankill, bastion des communautés nationalistes catholiques et unionistes protestantes. L'armée britannique quadrille la ville et elle installe donc ce qu'on appelle des peace lines, des peace walls, des lignes de la paix, des murs de la paix. Alors pour beaucoup, tout simplement, en lieu et place des sites sur lesquels les émeutiers avaient placé, je crois, des barricades. Leur longueur varie beaucoup. Ça peut aller de quelques centaines de mètres jusqu'à plus de 5 kilomètres. Aujourd'hui, il y en a une centaine. Et chose étonnante, ce que je disais dans mon introduction, depuis les accords de paix de 1998, leur nombre a augmenté. Comment le comprendre?
Alors, effectivement, on est passé de...
Puisque c'est la paix, les murs doivent tomber.
Oui, il y a une multiplication beaucoup plus forte après les accords de paix qu'avant, et c'est effectivement étonnant. Ça s'explique parce qu'on est passé d'un modèle où c'était finalement un instrument de maintien de l'ordre à une sorte d'outil routinisé, souvent demandé par la population, de prévention des dégradations matérielles et des attaques humaines avec des cocktails Molotov notamment, ou des cailloux, des jets de pierre et des émeutes, notamment les émeutes juvéniles. Ce qui est très paradoxal, c'est que la population aujourd'hui a peur que ces murs soient démantelés et souhaite les conserver parce qu'elle se sent protégée. Il faut savoir qu'il y a encore des tensions sporadiques dans les quartiers populaires qui ont souffert la plupart des événements de ce qu'on a appelé les troubles, donc cette quasi-guerre civile qui a fait à peu près 3000 morts en une trentaine d'années. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu, en 2013, une déclaration du vice-premier ministre et du Premier ministre d'alors, donc Martin McGuinness était là, pour déclarer qu'en 2023, tous les murs tomberaient. Alors c'est une déclaration qui n'a pas été suivie immédiatement des faits, mais les pourparlers qui étaient déjà engagés auparavant, sur le terrain, notamment par des associations et des associations de quartier, se sont poursuivis. Et ce qui se passe, c'est que ces pourparlers ont pour but de préparer les résidents au fait que peut-être un jour les murs vont tomber et de considérer les conditions dans lesquelles ça peut se faire. Il y a eu déjà des exemples, parce qu'il faut savoir, premièrement, je ne l'ai pas dit, mais que ces murs, ceux qui ont été mis en place par la police, appartiennent aujourd'hui au ministère de la Justice. Et il y a une vingtaine de murs qui appartiennent à l'organisme de logement social, ce qui est un paradoxe. Et donc, ces murs ont commencé à être plus ou moins démantelés, en tout cas pour un petit nombre d'entre eux.
On va revenir justement sur ces murs qui ont été démantelés et voir quels effets ça a eu justement. Mais il y a une chose qui est intéressante parce que vous avez l'air de dire que finalement, mais vous allez me dire si je comprends bien, ces murs ne sont pas là seulement pour des questions purement sécuritaires, ça s'inscrit aussi dans des logiques, disons, de protection des habitats, vous l'avez dit, alors c'est la même chose, mais sauf que c'est la protection d'habitat qui permet aussi une valorisation de l'offre immobilière, en réalité. C'est aussi ça l'enjeu, non ?
Alors, j'irai pas jusque-là, parce qu'on est quand même dans des quartiers où, ce sont des quartiers d'habitat public, parce que...
D'accord.
Et la logique de la rente foncière n'est pas forcément tout de suite immédiatement perceptible. En revanche, il y a un intérêt certain pour l'organisme de logement social à protéger ses propriétés et à protéger aussi ses locataires. Ceci étant, les revendications souvent lors de crises, de tensions dans les quartiers, on s'aperçoit que il y a souvent des revendications territoriales de « c'est notre quartier, on va nous prendre nos maisons », donc une peur qui est exprimée en termes territoriaux d'accès aux services, de construction de logements pour sa propre communauté et l'idée qu'on ne doit pas être lésé au profit de l'autre communauté. Donc ce sont des éléments qui sont très prégnants encore aujourd'hui.
Qui décide du tracé d'un nouveau mur ? Et est-ce que les habitants sont consultés ?
Alors, dans les années 70, personne n'était consulté.
Évidemment, bien sûr. J'entends plus ceux qui ont été érigés depuis 98, depuis les accords de paix.
Aujourd'hui, effectivement, il y a des négociations entre tous les acteurs concernés, la police, les ministres parlementaires en off, les habitants, les élus locaux aussi, qui ont qui jouent un petit rôle de médiation, et les associations locales. Les agents de renseignement généraux, l'organisme de logement social, quand c'est sur son territoire, c'est lui qui trace la ligne. Et puis quand c'est la police, c'est la police qui décide. Mais de plus en plus, on a eu une sorte de politisation de la question avec une intervention beaucoup plus forte de la demande des habitants.
Et une politisation de la question et puis aussi une appropriation de ces murs comme espace d'expression artistique. C'est-à-dire qu'on voit au fur et à mesure du temps, ces murs se sont imposés dans le paysage urbain et sont devenus des supports de la mémoire collective, de la mémoire des luttes. On y voit de grandes fresques qui relatent les grands moments. C'est vraiment une réappropriation de cet objet mur par la mémoire collective.
Alors, il faut distinguer...
À travers l'art, bien sûr.
Il faut distinguer deux types de lieux. Les fresques qui, justement, rappellent la mémoire collective, qui sont très tournées vers la victimisation aujourd'hui et le rappel des souffrances subies par chaque communauté, ils sont plutôt à l'intérieur des cafés, à l'intérieur des quartiers, pardon, sur les pignons des maisons, ce qui crée aussi parfois des tensions entre les habitants. Mais les murs qui sont entre les quartiers sont plutôt des endroits qui sont finalement moins fréquentés, un peu plus à l'écart. Et donc les projets artistiques qui sont sur ces murs sont souvent des commandes de la ville pour des projets de réconciliation, donc en partie financés par la communauté européenne. Je dois dire que les habitants sont quand même parfois un petit peu sceptiques par rapport à...
Ah oui.
ces, ces murs, ces interventions artistiques où on fait participer les enfants des écoles, où il y a forcément des choses positives, mais c'est un petit peu une sorte de feel good, un feel good process qui est parfois accueilli avec un peu de scepticisme, d'autant plus que ça attire encore plus les touristes. Le grand mur dans Copperwhite qui divise la ville dans l'ouest, les quartiers emblématiques du Chantilly des Folles est visité par les touristes. Il y a les bus de touristes qui s'y arrêtent ou les taxis.
Il y a même des taxis spécialisés qui proposent des circuits aux touristes sur lesquels ils vont pouvoir voir justement les différentes lignes de paix, les murs de la paix de Belfast.
Oui, on leur donne même un feutre pour qu'ils puissent inscrire leur message de paix, ce qui est effectivement très artificiel et un peu décrié par les
Alors, il y a ce côté artificiel, mais il y a aussi le côté très concret. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des quartiers dans lesquels on a retiré ces barrières. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, il s'est passé que les pourparlers entre les associations de locataires et d'habitants, évidemment la police et l'organisme de logement social quand ils étaient concernés, ont abouti au constat que peut-être ça n'était plus nécessaire et que les habitants pourraient quand même se sentir en sécurité si on les enlevait. Et alors, il y a eu des petits projets, notamment sur des portails routiers qui barraient les routes. On a remplacé le portail très imposant par un portail ajouré, donc moins menaçant peut-être. Et puis, dans un quartier populaire du Nord...
Ajouré, ça veut dire qu'on peut le franchir, concrètement?
Non, on peut voir au travers.
Oui, oui, ça, je comprends ce que veut dire ajouré, mais est-ce qu'il est ajouré au point de pouvoir devenir franchissable?
Ça dépend des cas. De façon générale, il y a beaucoup de portails routiers qui ont été plus ou moins ouverts, au départ avec des horaires qui sont indiqués. Les horaires ne correspondent pas forcément aux horaires réels, mais qu'on... Il y a des routes qui ont été ouvertes et d'autres qui sont fermées au moment de tension, toujours. Et les portails qui sont toujours fermés, on les a parfois ouverts, mais de façon très périodique, et on les a aussi rendus de façon plus esthétique, en tout cas moins...
moins ostentatoire.
Voilà.
Vous expliquez qu'en 2008, il y a un grand débat sur la démolition des pistelins, des murs de la paix, pardon, qui est publiquement lancé. Il y a une enquête qui est lancée et vous rapportez que cette enquête révèle que 81% des personnes interrogées à l'époque, ces personnes qui vivent à proximité de ces murs, sont favorables à leur démolition, mais pas dans l'immédiat.
Ça reste le cas aujourd'hui. Alors, il y a l'exemple dans Ardoyne, un quartier populaire du nord de Belfast, qui a été très très marqué par cette histoire conflictuelle entre les deux communautés. Le mur qui longeait la route, donc qui faisait un écran entre les habitations et la rue, a été démoli en août dernier, en août 2016, suite à des pourparlers avec les résidents. Mais ça a été très long, très progressif. Jennifer Hawthorne, qui est la directrice de la Community Cohesion Unit dans l'organisme de logement social, se bat beaucoup pour faire advenir ces projets. Et là, elle a réussi à mettre en œuvre cette solution, mais ça a été au prix de beaucoup rassurer les populations locales.
Quel bilan est-ce qu'on peut faire ? Vous vouliez poursuivre ?
Non, je disais qu'en fait, c'était c'est le premier. Il y en a sans doute d'autres qui vont suivre, mais ça va être très très long.
Quel bilan est-ce qu'on peut faire, Florine Balif, aujourd'hui, de ces murs ? Finalement, ils ont l'air quand même d'avoir montré une certaine efficacité en diminuant bien sûr les zones de contact et donc les possibilités d'affrontement, d'éclatement de conflits. Du point de vue de la sécurisation, du point de vue de la paix, quel bilan peut-on en faire ?
Alors, c'est difficile à dire. Parce que quand on met souvent un mur ou une caméra, on sait très bien que les phénomènes se déplacent. Alors je pense qu'ils ont eu une fonction un petit peu ambivalente, dans la mesure où peut-être ils empêchaient physiquement certains affrontements de se dérouler, mais ils rendaient la division peut-être plus visible et ils renforçaient ce sentiment entre eux et nous. Ils rappellent chaque jour que on a perdu des vies, on a perdu des amis, de la famille, qu'il y a eu toute cette histoire conflictuelle qui est rappelée constamment dans le paysage urbain. Et on peut faire le parallèle avec la multiplication des monuments aux morts depuis la fin des accords de paix. Alors ce sont des monuments aux morts qui sont mis en place par les associations locales, qui sont plus ou moins liées aux milices paramilitaires. Et donc, on est dans une sorte de lieu de mémoire permanent qui rappelle ce conflit.
Alors, ce conflit, il est rappelé effectivement par ces murs, mais il est parfois rappelé par des événements très très concrets. Là, je pense à juin 2011, où il y a des affrontements interconfessionnels qui avaient éclaté à Belfast. Il y avait des maisons appartenant à des catholiques qui avaient été attaquées par des protestants. Est-ce que c'est une chose qui serait encore possible aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui où concrètement des émeutes peuvent éclater à n'importe quel moment?
Oui, il y a toujours des tensions assez fortes sur le terrain et qui parfois éclatent. Et il y a encore quelques petits attentats avec des petites bombes artisanales voilà, qui sont moins meurtrières qu'auparavant, mais il y a toujours des tensions très très fortes sur le terrain.
Et la période la plus propice à l'explosion de violence, c'est l'été, le moment où les deux communautés s'adonnent aux fameuses parades, notamment la marche de l'Ordre d'Orange, tous les 12 juillet, vue par les catholiques comme une véritable provocation. L'atmosphère, là, justement, d'une de ces marches de l'Ordre Orange, la marche orangiste qui commémore la victoire de Guillaume d'Orange sur les catholiques de Jacques II en Irlande en juillet 1690, vous dites que l'événement n'a pas toujours eu le succès qu'il a aujourd'hui et que, paradoxalement, en réalité, ce retour en force de cette parade, il s'est fait précisément dans les années 90 à la faveur du processus de paix.
Oui, et les tensions ont éclaté parce que, justement, la municipalité a voulu réguler et a interdit certains parcours pour limiter les provocations envers les nationalistes. Et ces limitations ont eux-mêmes rendu furieux les unionistes qui voyaient une atteinte à leur droit de parader. Et il y a des tensions énormes sur les tracés du trajet, et souvent, dans la soirée, le défilé se finit avec des affrontements entre des gens plutôt jeunes, mais qui sont alimentés par les paramilitaires qui instrumentalisent parfois ces conflits.
Et là, il s'agit clairement d'affirmer son identité protestante à travers cette marche, très clairement.
Oui, ou d'affirmer une sorte de domination territoriale sur l'ensemble de la ville, ce pourquoi les nationalistes ne supportent pas que ces marches passent dans leur quartier. Et puis, on a entendu l'orchestre, qui sont parfois le support de marches des marches, mais aussi de chansons qui sont très discriminatoires et insultantes pour les catholiques.
Vous parlez de domination territoriale, il y a une autre forme de domination, pardon, c'est la domination démographique. Les deux communautés sont dans des dynamiques totalement opposées. On a des catholiques qui sont de plus en plus nombreux, alors que le nombre de protestants, lui, diminue. Est-ce que c'est une pression démographique qui se perçoit dans les quartiers? Est-ce que on voit très clairement que la communauté catholique est en train de, je mets des guillemets, prendre le dessus sur le contrôle de l'espace urbain parce que tout simplement ils sont plus nombreux?
Alors il y a une perception assez forte dans l'espace urbain, dans les quartiers populaires, parce que finalement les nationalistes avaient des endroits limités dans la ville et ils sont restés dans leur quartier. Ils se sont embourgeoisés sur place alors que les protestants pouvaient plus partir en périphérie. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent dans les quartiers de population vieillissante et à côté des quartiers qui ont été très fortement densifiés avec une population jeune, à tel point que parfois le quartier protestant disparaît au profit du quartier catholique. C'est assez rare, mais ça arrive suffisamment pour que la communauté protestante de l'Inner City de Belfast se sente menacée.
De Belfast à Nicosie, fortifiée pour garantir la paix, on est avec Florine Baliff. Nicosie, justement, on va en parler, on va prendre la direction de Chypre.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il y a une différence frappante entre les deux parties. Là-bas, les immeubles s'écroulent. L'économie n'est pas la même. Il y a deux époques à quelques mètres d'écart. Une moderne et une plus ancienne.
Pourquoi ne pas s'asseoir tous ensemble et écrire l'histoire de l'île en toute objectivité?
Il faut apprendre le compromis et non pas le nationalisme. C'est ça la paix pour moi.
Voilà, extrait d'un reportage publié sur le site du Monde. Chypre, qui est divisée en deux depuis maintenant plus de 40 ans. Depuis 1974, l'île est partagée par une ligne verte tracée par les Nations Unies suite à l'invasion de l'armée turque de la partie nord du territoire qui cherchait à empêcher son rattachement à la Grèce. Cette ligne passe par Nicosie, capitale des deux républiques, la République turque du nord de Chypre, uniquement reconnue par la Turquie, et puis la République de Chypre, dont la majorité des habitants sont des chypriotes grecs et qui est reconnue par l'Union européenne et la quasi-totalité de la communauté internationale. Elle est même membre de l'Union européenne depuis 2004. Et voilà que depuis le début de l'année, l'ONU a relancé les négociations sur la réunification de l'île. Elle a réuni les dirigeants des deux républiques chypriotes, mais aussi la Turquie, la Grèce et le Royaume-Uni. Bonjour Étienne Copeau. Étienne Copeau.
Allô ?
Étienne Copeau, est-ce que vous m'entendez ?
Allô, oui.
Oui, voilà. Donc, je vous disais bonjour, Étienne Copeau. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien de la Turquie contemporaine, auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur la Turquie et sur Chypre. Le président de la République de Chypre, Nikos Anastasiades, a fait du retrait de l'armée turque de l'île une condition à la cessation du conflit. Sauf que la réponse du président turc, elle a été extrêmement claire. Je le cite, le retrait total des soldats turcs est hors de question. Alors, il y a plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'Ankara refuse catégoriquement d'envisager de retirer ses soldats de l'île ? Et est-ce qu'il y a un espoir qu'il concède ce retrait, Étienne Copeau ?
Alors, la raison de la présence de l'armée turque, vous l'avez dit, l'armée turque est là depuis 1974, depuis l'invasion turque de juillet-août 1974. L'armée turque officiellement est là pour protéger les Turcs, les Chypriotes turcs, je préfère le dire comme ça, protéger les Chypriotes turcs contre les menaces d'agression, parfois de massacre de la part des Chypriotes grecs, et ça, ce ne sont pas des inventions. Il y a eu énormément de difficultés, de violences entre les deux communautés, et comme les Chypriotes grecs sont beaucoup plus nombreux, ce sont plus généralement les Turcs qui en ont été victimes.
Mais est-ce que les Chypriotes turcs se sentent toujours aujourd'hui menacés ?
Alors, c'est la thèse officielle. En fait, quand on dit les Chypriotes turcs, il y a évidemment beaucoup de... Il y a plusieurs tendances politiques. Les Chypriotes turcs nationalistes, très influencés par le nationalisme turc, qui voulaient au départ d'ailleurs que l'île soit divisée et que la partie nord soit administrée carrément par la Turquie. Bon, mais le nationalisme turc, nationalisme de la Turquie, provenant de Turquie, a énormément d'influence parmi pour faire simple, la droite turco-chypriote. Et d'autre part, il y a une grande partie de la population, de plus en plus importante, qui ne se satisfait pas de la division, qui s'estime chypriote avant d'être turc, et qui voudrait évidemment que l'île soit réunie. Mais je dois préciser que l'armée turque est présente à Chypre, comme l'armée anglaise et l'armée grecque, des contingents, sont présents depuis l'indépendance de Chypre en 1960. Il a été prévu dans la création de la République, enfin au moment de l'indépendance de Chypre, que trois puissances garantissaient l'indépendance. Bon, c'est complètement paradoxal. La Turquie, la Grèce et la Grande-Bretagne, et que ces trois puissances continueraient d'avoir des contingents sur l'île.
En tout cas, ce qui est très intéressant de ce que j'entends, Étienne Copeau, dans votre bouche, c'est que les Chypriotes turcs, vous le disiez, sont minoritaires, donc la présence de soldats turcs sont pour eux un gage de sécurité, et en même temps, la présence de ces soldats fait débat, et cette minorité sait bien que la réunification ne peut se faire qu'avec leur départ, sachant qu'ils désirent cette réunification. Étienne Copeau, aujourd'hui, comment est-ce que les deux communautés peuvent échanger ? Quel est l'état des échanges, de la coopération ? Est-ce qu'on peut tout simplement franchir cette frontière et comment ?
Oui, alors je rajoute quand même un petit mot à propos de la présence de l'armée turque. Ce que je n'ai pas dit, et il faut insister, c'est que l'armée turque a été très très bien accueillie par les Chypriotes turcs en 1974, parce que là ils étaient menacés.
Ah oui, bien sûr, parce qu'ils étaient menacés, bien sûr, bien sûr.
Qui allait diriger l'île, et ensuite ils se sont mis vite à la détester. Hein. Souvent on nous a dit, en désignant les soldats turcs, ceux-là on ne peut plus les voir, on en a marre, etc. Alors comment les Chypriotes se voient-ils, se rencontrent-ils, quelles sont leurs relations entre les deux communautés? Bon, c'est beaucoup plus facile depuis 2003. La ligne verte était absolument hermétique, plus hermétique que le mur de Berlin avant, entre 1974 et 2003. On ne pouvait absolument pas passer. Pour aller d'un côté à l'autre, il fallait passer par Athènes ou par Istanbul. Et puis en 2003, la ligne a été ouverte en plusieurs points. Et là, première surprise, moi j'étais très inquiet parce qu'il y avait beaucoup d'animosité entre les deux communautés, en tout cas dans les paroles, pendant ces 29 ans de fermeture. Et on estime qu'à peu près, en quelques mois après l'ouverture de la ligne qui s'est faite en avril 2003, en quelques mois, la moitié à peu près des Chypriotes se sont rendus de l'autre côté. Pour voir leur ancien village, pour essayer de retrouver leurs anciens amis, leurs anciens voisins, etc. Et il n'y a pas eu d'incident. Ça, c'est remarquable. Il n'y a pas eu d'agression. Même verbalement, on n'a pas rapporté de bagarres, d'invectives, etc. Les retrouvailles se sont très, très bien passées. Donc ça augurait très bien de l'avenir. Et ensuite, bon, il y a eu des contacts qui existaient déjà avant l'ouverture du mur, des contacts entre les deux communautés dans la société civile. Bien souvent, ça se faisait à Londres. Des associations qui se retrouvaient aussi à l'intérieur de la zone tampon qui est administrée par l'ONU. Donc, ces contacts préexistants ont facilité le développement de nouveaux contacts beaucoup plus directs après l'ouverture de la ligne.
Alors, puisque justement, vous le dites, les choses se passent plutôt bien, les échanges sont possibles, sans heurts, les communautés, même si évidemment il y a des obstacles, sont visiblement disposées à engager la réunification. L'une des options qui semble envisagée pour justement organiser cette réunification, c'est la mise en place d'un État fédéral, c'est ça que... Le négociateur.
Personne n'envisage autre chose qu'un État fédéral, on dit le plus souvent bizonal, bicommunautaire et bizonal, c'est-à-dire que, en fait, finalement, ce qui changerait, c'est la création d'un gouvernement commun aux deux communautés. Comment fonctionnerait-il, tout ça c'est à définir. En gros, ça reprendrait un petit peu les options du plan Annan de 2003-2004, avec des présidences tournantes ou une répartition du pouvoir entre les deux communautés.
Le plan Annan, le plan Kofi Annan, secrétaire.
Plan Kofi Annan, voilà. du nom du secrétaire général de l'ONU.
Étienne Copeau, peut-être.
Qui a été repoussé en 2004. D'ailleurs.
Peut-être un dernier mot, Étienne Copeau, et un des dossiers qu'il va falloir régler justement pour permettre l'émergence de cet État fédéral, la question de la restitution des terres. Parce qu'en 1974, il y a des Chypriotes grecs qui ont dû abandonner des terrains dans la partie nord, des terrains qui ensuite ont été récupérés par des Chypriotes turcs, qui ont revendu, pour certains en tout cas, ces terres, et notamment à des étrangers, en l'occurrence des Britanniques. Il y a un certain nombre d'affaires judiciaires qui sont en cours, d'autres qui ont même été réglées. On demande la restitution précisément de ces terres. Quelles sont là les solutions envisageables pour régler ces conflits fonciers qui vont être une étape incontournable dans le processus de paix?
Les Grecs n'ont pas abandonné leurs biens. Ils ont été chassés par l'armée turque. En juillet 1974, 200 000 personnes ont été chassées par l'armée turque vers le sud. Bon, tous ces biens, une grande partie d'ailleurs de ces biens appartient à l'Église orthodoxe, qui est richissime à Chypre. Tous ces biens ont été effectivement donner en usufruit à des Chypriotes turcs en compensation, puisqu'eux avaient perdu leur terre au sud, ou leurs biens. La première conséquence, c'est que les Chypriotes turcs se sont sentis dans le provisoire pendant ces 39 ans, parce qu'ils n'étaient pas propriétaires, on leur donnait simplement la jouissance. Et en 2004, lorsque le référendum a eu lieu sur le plan Annan, les Chypriotes grecs ont massivement voté non au plan Annan. Donc ils ont voté non à la réunification. Et les Chypriotes turcs ont interprété ce refus de la manière suivante: puisque les Grecs ne veulent pas de réunification, eh bien c'est la situation est figée et les biens sont à nous. Donc ils se sont très fortement encouragés par leurs autorités, sentis propriétaires désormais de ces biens, qui ont été massivement vendus, en effet, au cours de l'été 2004, et principalement à des étrangers, des Britanniques, des Israéliens.
Mais est-ce que vous pensez, on a bien compris ça, mais est-ce que vous pensez que justement cette question est réglable? Vous pensez, ou ce sera un obstacle insurmontable?
On réussit, quand je dis les Turcs avec la Turquie derrière, on réussit à créer une situation justement inextricable. Ça a été fait pour que ce soit inextricable. Donc maintenant, l'imbroglio foncier, immobilier, est très très difficile à régler.
Ça sera très difficile, c'est-à-dire, évidemment.
Il ne pourra se régler que par des compensations financières.
Bon. Merci beaucoup, en tout cas, Étienne Copeau, d'avoir été avec nous. Je rappellerai aux auditeurs que vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages, et notamment Taksim, Chypre divisé, que on mettra évidemment en référence sur le site de France Culture. Florine Balif, le jeu de comparaison, on dit toujours comparaison n'est pas raison, mais ça permet d'envisager des choses parfois étonnantes. On parlait là d'un État fédéral, hypothèse complètement farfelue. Est-ce que l'option d'une Irlande réunifiée sous un modèle fédéral vous paraît envisageable? Le Brexit va tout chambouler?
On peut tout imaginer. Je pense que effectivement, il y a un pourquoi pas. Ceci étant,
ah oui, vous dites pourquoi pas. Je pensais que vous me diriez non, mais
moi, je dis pourquoi
n'importe
pas,
quoi.
Mais non. Je vois mal quand même les unionistes accepter, en tout cas les plus radicaux d'entre eux, parce que ce serait peut-être un pas vers la réunification de l'Irlande.
On va prendre la direction du Maroc et parler du mur des sables, qu'on appelle aussi mur de sécurité ou mur de la honte, selon évidemment où on se situe. Il s'agit d'une séparation érigée dans le Sahara occidental par le Maroc dans les années 80, servant officiellement à se protéger des attaques, mais il s'agit surtout d'affirmer la souveraineté marocaine face aux revendications d'indépendance portées par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste créé en 73 pour lutter contre l'occupation espagnole et opposé depuis 75 au contrôle de la zone. À l'époque, cette crise politique avait poussé le roi Hassan II à quitter l'Union africaine, mais voilà que Rabat fait son retour dans l'Union africaine.
Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Le retrait de l'OUA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Il est l'heure de rentrer à la maison. Nous avons choisi de retrouver la famille.
Voilà, on a choisi de retrouver la famille, disait Mohamed VI, le roi du Maroc. Bonjour Sébastien Boulet.
Bonjour Florian Delorme, merci de votre invitation.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, maître de conférence à Paris Descartes et membre de l'Observatoire universitaire international du Sahara occidental. Alors on l'entendait, très récemment, le Maroc a signé son retour dans l'Union africaine. C'était lors du 28e sommet de l'Union africaine. C'était là, à la fin du mois de janvier, à Addis Abeba. 33 ans donc après son départ en 84, à cause de évidemment cette crise autour du Sahara occidental, Rabat revient dans l'Union africaine. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué, voilà ce que disait Mohamed VI lors de son discours. Pour autant, évidemment, ça ne veut pas dire que la question du Sahara occidental est réglée. Sébastien Boulet.
Non, absolument pas. En revanche, c'est plutôt une bonne nouvelle que, effectivement, le Maroc retrouve l'Union africaine. Cela permet effectivement de relancer un petit peu les négociations entre les parties sur ce conflit qui dure depuis 40 ans.
Oui, alors une bonne nouvelle pour le Maroc et pour l'Afrique, mais pour le reste, parce que faut rappeler quand même que le Maroc a réintégré cette Union africaine avec une très large majorité des pays. Je crois qu'il y a seul l'Algérie et l'Afrique du Sud qui se sont notablement opposés, disons. Or, l'Union africaine compte également en son sein la République arabe sahraoui démocratique, proclamée en février 76, non reconnue internationalement, mais qui est un État à part entière pour l'Union africaine, dont elle est membre depuis 82. Alors la question qui se pose, c'est quel est l'avenir de cette République arabe sahraoui démocratique? Ce retour triomphal du Maroc, est-ce qu'il ne signe pas le déclin inexorable de cette singularité territoriale, politique, historique, démographique qui découle, on le sait, d'un processus de décolonisation non achevé en réalité?
Alors, je pense que je suis pas sûr que ce soit un si grand triomphe pour le Maroc. Je crois que l'Union africaine est au contraire très attachée, et c'était la raison pour laquelle la RASD avait été parmi les membres fondateurs de l'Union africaine en 82, très attachée à la décolonisation de ces derniers territoires non autonomes. Donc non, je crois que l'Union africaine reste très 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 ferme sur ces droits des peuples anciennement colonisés à accéder à leur indépendance. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Simplement, il va falloir que la monarchie marocaine accepte ce principe.
Sébastien Boulet, en novembre 85, quand un journaliste demandait à Hassan II à l'époque ce qui, selon lui, lui permettait de dire que le Sahara occidental était marocain, voilà ce qu'il répondait. Il disait « Si je parlais à mon petit-fils, je lui dirais tout simplement que ce Sahara a toujours été lié au Maroc par les liens d'allégeance et que chez nous, souveraineté et allégeance, Beya, sont une seule et même chose. Si on se place de l'autre côté du mur, que nous diraient les partisans d'une république arabe sahraoui démocratique, souveraine et autonome? Quels seraient les arguments historiques et culturels qui vont dans le sens de l'indépendance vis-à-vis de Rabat ?»
Alors, cet argument que vous venez de rappeler a dans un premier temps été contesté par les Nations Unies, hein, dans le cadre de la Cour internationale de justice dès les années 60. Par ailleurs, ce territoire il est peuplé depuis des siècles par des populations de grands nomades, d'éleveurs qui n'avaient pas effectivement ces liens d'allégeance que le Maroc met en avant. Hein, donc ça a été démontré par de nombreux travaux, de nombreux rapports, y compris onusiens. Hein. Donc ce lien au territoire par des tribus sahraouis, il est revendiqué depuis 40 ans maintenant.
Décrivons un peu les choses, Sébastien Boulet. Racontez-nous à quoi ressemble ce mur. Je crois que c'est un mur qui est vraiment immense, hein. C'est plusieurs milliers de kilomètres, c'est presque 3000 kilomètres. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le franchir? Est-ce que la circulation des hommes et des marchandises sont totalement rendues impossibles justement par ce mur?
Alors oui, effectivement, c'est un mur qui se signale par une absence totale de points de passage, sinon des points de passage à usage des militaires. C'est le mur le plus long du monde, hein, 2500 ou 2700 kilomètres de long, donc effectivement qui empêche toute circulation d'est en ouest. Qui est donc assez hermétique, qui est surveillé par une centaine de milliers de militaires marocains, qui est miné. Je crois qu'on a comptabilisé 7 millions de bombes de mines antipersonnelles, qui est surveillé, etc., avec régulièrement des accrochages, des violations aussi de cette ligne qui sert également de ligne de cessez-le-feu, hein, depuis 1991, depuis le cessez-le-feu de 1991 qui devait déboucher sur l'organisation d'un référendum d'autodétermination qui n'a toujours pas vu le jour depuis 25 ans.
Oui, donc, qui avait été proposé par les Nations Unies.
Un remblai de sable. En fait, ce sont des talus avec des tranchées parallèles qui sont infranchissables.
Oui, ce référendum, Sébastien Boulet, qui avait été proposé par les Nations Unies. Vous dites qu'il y a autour de ce mur toute une production, et là il y a un jeu de miroir à faire aussi peut-être avec Belfast dont on parlait tout à l'heure avec Florine Balif, il y a toute une production culturelle, artistique autour du mur, notamment des poèmes qui sont écrits autour de cette frontière et de son impossible franchissement.
Alors effectivement, les La poésie est sans frontières, l'art est sans frontières, et donc effectivement depuis une quinzaine d'années ou au moins une dizaine d'années, avec le développement des infrastructures de télécommunication du côté algérien où se trouvent les camps de réfugiés de Tindouf, mais aussi du côté marocain, finalement ces infrastructures ont permis le développement du web, de la téléphonie portable, et donc de la circulation de productions web, de vidéos, mais aussi de correspondances, de journalistes qui envoient des reportages depuis la zone sous contrôle marocain vers les médias qui sont basés dans les camps de réfugiés de Tindouf. Donc on a une circulation effectivement de documents, de poèmes, de chansons assez abondante et qui en quelque part a relancé un petit peu la communication pendant longtemps interdite entre ces deux territoires, entre les camps de réfugiés de Tindouf et la zone sous occupation marocaine, où vivent une grosse partie de la population sahraoui.
Florine Balif, évidemment, dans le cas des murs de Belfast, on a aussi une énorme production de chansons, de poésie autour de ces murs.
Oui, évidemment. Mais moi, ce qui me frappe, c'est peut-être un parallèle entre une structure qui est très imposante, très énorme, peut-être qui a une visibilité, peut-être qui recouvre finalement des divisions d'un système et des processus techniques, juridiques, politiques, et mais qu'au final on est quand même dans un moment où la société civile peut-être aspire à autre chose. Alors évidemment il y a des crispations identitaires, mais je crois que les individus aujourd'hui aspirent à inventer d'autres formes d'existence collective, et peut-être que voilà, en tout cas, ces poèmes et cet art, à mon avis, expriment cela.
En sont un des signes, oui. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Sébastien Boulet, d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment.
Merci.
Je rappellerai que vous êtes anthropologue, maître de conférence à Paris Descartes et membre de l'Observatoire universitaire international du Sahara occidental. Ready for them, but them not ready for the warrior. Ready for them, but them not ready for the soldier. Et merci beaucoup à vous, Florine Balif, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappellerai que vous êtes urbaniste et maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, auteur notamment de cet article Les traces de la guerre civile, la pérennisation des peace lines à Belfast, dans un ouvrage intitulé Pérennité urbaine ou la ville par-delà ses métamorphoses, qui était paru chez L'Harmattan. On mettra évidemment tout ça en référence sur le site internet de France Culture. Un grand merci, on poursuivra évidemment nos pérégrinations autour de ces nouveaux murs demain, mais pour l'heure, on va retrouver dans quelques secondes Brice Couturier et son monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, on parle depuis hier de cette guerre contre les médias, puisque Donald Trump, vous le rappeliez hier, a déclaré « Je suis en guerre contre les médias ». C'est une situation inédite dans une démocratie. Comment les médias américains réagissent-ils à cette déclaration?
D'abord, rappelons que Barack Obama aussi, dans son bras de fer avec Fox News, avait un moment, en 2009, boycotté cette chaîne conservatrice. Trump, lui, se permet de refuser les questions de l'envoyé de CNN à la Maison-Blanche au motif qu'il n'aime pas la façon dont elle a témoigné en images de sa cérémonie d'investiture. La campagne présidentielle a été d'une rare violence, on s'en souvient, les accusations ont volé bas et les médias légitimes ont opté dans leur immense majorité pour Hillary Clinton. Mais justement, Trump semble persuadé que leur hostilité à son égard l'a servi et peut le servir encore. Il pense donc avoir intérêt à alimenter cette guerre en provoquant sans cesse les médias. Alors quelle doit être la bonne réponse à cette campagne de harcèlement? Comment éviter d'être instrumentalisé, y compris comme bouc émissaire? D'abord un brin d'histoire. Comme le rappelle la revue conservatrice The National Interest, la plupart des présidences ont entretenu des relations conflictuelles avec les journaux. Ce n'est donc pas une nouveauté. C'est une tradition qui remonte à Thomas Jefferson lui-même. Le troisième président des États-Unis se plaignait déjà de la vulgarité et de la fausseté des journalistes. Or, cette suspicion mutuelle, estime The National Interest, fait partie de l'esprit même des institutions américaines. Elle est en quelque sorte organisée par le Premier Amendement. Elle contribue à l'équilibre des pouvoirs en limitant utilement ceux du président. En outre, le retour à des rapports conflictuels mettra un terme à une dérive. Dérive qui a eu lieu sous les administrations Clinton et George W. Bush. Sous ces deux présidents, en effet, on a vu beaucoup trop de spécialistes du verbe passer des grands médias à la rédaction des discours présidentiels, et réciproquement. Ce rapprochement entre le personnel de l'exécutif et celui des grands médias est jugé incestueux par le National Interest. Il relève que les correspondants de presse accrédités auprès de la Maison-Blanche s'étaient, je cite, « habitués à être proches du pouvoir ». Il écrit aussi « Pendant trop longtemps, les journalistes et les décideurs politiques à Washington ont eu la même provenance sociale et ont eu trop de choses en commun sur le plan culturel et idéologique ». Alors avec Trump, les choses vont changer bien sûr. Il s'est fait élire en combattant non seulement le système bipartisan, mais l'établissement politico-médiatique, poursuit The National Interest. Il exploite la répulsion que des millions d'Américains éprouvent à être informés par des gens qui ne leur ressemblent pas. Bref, il joue de la méfiance du public envers les médias afin d'apparaître comme le défenseur de la plèbe contre l'élite.
Comment éviter, Brice Couturier, que des mensonges flagrants montés par des communicants pour le compte des leaders du genre de Trump ne parviennent à provoquer les diversions qu'ils espèrent et à détourner l'attention des sujets, disons, sérieux?
Eh ben, c'est l'une des questions auxquelles tente de répondre ce mois-ci dans le magazine britannique Prospect la journaliste Jessica Abrahams. Que des politiciens tournent le récit des faits en leur avantage, en trichant avec la vérité. Nous y sommes habitués, écrit-elle. Et la fonction des médias a toujours été de rétablir la vérité en la dégageant des, disons, arrangements pris avec elle. Mais le défi de l'âge Trump, c'est qu'une part significative du public semble accorder sa préférence au monde des puissants mensonges au détriment de celui des médias d'information, écrit-elle. Trump l'a compris et il se joue du fossé qui s'est créé entre les médias et le public. Il ne cesse d'accuser les journalistes d'être des faussaires. Comment combler ce trou? Eh bien, Jessica Abrahams propose 5 pistes très pratiques et très concrètes. D'abord, en étant tout simplement compétent. Et par exemple, en arrivant aux conférences de presse, en possession des données de base, de chiffres vérifiés, afin de savoir à partir de quand un politicien nous ment. Et lorsque tel est le cas, le faire immédiatement savoir par des objections bien senties. Ensuite, en s'efforçant à la plus grande précision possible. Trop d'entre nous, dit-elle, ont pris leur propre liberté avec les faits dans le but d'étonner, d'amuser, d'attirer l'attention. C'est aussi que nous sommes soumis à la concurrence des sites d'infotainment en ligne. Mais, je la cite, « les médias vont continuer à perdre du terrain s'ils ne parviennent pas à se distinguer de leurs rivaux ». Troisièmement, je la cite encore, nous devons être conscients de nos propres partis pris, car chacun sait que les faits ne sont pas neutres. Il faut discriminer entre eux en fonction de leur importance relative et non pas en fonction d'un agenda politique qui aurait notre sympathie. Cessez aussi de mêler à la relation des faits nos jugements de valeur, même implicites, distinguer l'information du commentaire. Quatrièmement, veillez au pluralisme de l'information, améliorer la diversité d'opinions, ne pas donner au public l'impression que les médias se comportent comme les porte-voix de certaines options idéologiques. Il y a des façons de rendre compte des événements qui comportent des jugements de valeur implicites, des distributions de blâme et d'éloges. Trop de journalistes ont raté leur vocation. Ils se seraient bien vus en curé ou en pasteur et ils sont devenus par défaut donneurs de leçons et directeurs de conscience. Enfin, ne pas apparaître aux yeux du public comme faisant partie de l'establishment. L'establishment, comme elle écrit, éviter toute connivence avec le milieu politique, car les nouveaux leaders, ces dirigeants à la Trump, se font adouber du public en jouant, je la cite, du sentiment anti-establishment très fort désormais dans certaines parties de la population.
Et voilà, quand Brice Couturier rappelait donc ce rapprochement entre le personnel de l'exécutif et celui des grands médias, ce n'est pas votre opinion, c'est celui de cette revue conservatrice de National Interest. Merci beaucoup, Brice Couturier. Notre focale, dans un instant, sur France Culture, on retrouve Raphaël Bourgois pour la Grande Table.